Voilà. En attendant que j'ai le micro, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va continuer notre étude dans l'épître de Jacques. Donc on va aller dans Jacques chapitre 1. On va lire les versets 13 à 27. Jacques chapitre 1, versets 13 à 27. Voilà. Je lis à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il y a deux semaines, on avait commencé à parler de cette épître de Jacques, des chrétiens dans la persécution, des chrétiens qui sont tentés par mille et une choses et qui étaient là dans l'épreuve. Et là, Jacques, maintenant, après avoir présenté un peu l'épître, il montre que ces chrétiens qui sont dans l'épreuve vont pouvoir être tentés aussi par certaines choses. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin, parce que quand on est embêté par les gens, quand on est persécuté par les gens, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous dites merci, amen, je veux encore, c'est ça? Comment vous réagissez si je vous embête? Vous allez me taper dessus, hein? Enfin, peut-être pas, parce que je suis plus fort que vous, mais quand même. Généralement, on a une réaction vis-à-vis de l'épreuve, vis-à-vis des difficultés, et justement, Jacques va en parler dans ce passage-là. Parce que l'injustice, ça vous plaît quand on est injuste avec vous? Vous aimez ça? Vous êtes bizarre quand même, hein? Personne n'aime l'injustice. Et quand on est injuste avec nous, eh ben, notre cœur, la chair, elle est là et elle va réagir parce qu'on a un ego et cet ego, moi, je le défends. C'est le mien, vous y touchez pas. Mais justement, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réagir. Le problème, c'est que quand la chair se met à travailler, se met en action, ben, généralement, elle cherche quoi ? Elle va vers la colère, elle va dire des paroles qui ne sont pas tout à fait saintes, bien souvent, et surtout, on a envie de se venger. Toi, tu m'as fait mal, mon gars, tu vas voir. On n'est pas comme ça, nous. Jamais. Au fond du cœur, si on regarde un peu, oui, on est chrétien, on ne va pas le faire, mais dans le cœur, on se dit, Seigneur, tu peux me venger. On est plus malin que ça. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Dieu veut nous rendre forts, justement, par rapport à ces épreuves, et surtout dans les moments de tentation où justement on a envie de réagir vis-à-vis de ceux qui sont injustes, de ceux qui nous font du mal. Et l'idée là, c'est tout simplement d'obéir à Dieu et à sa parole, comme Jésus-Christ l'a fait jusqu'au bout. C'est résister, j'ai marqué résister aux tentations dans l'épreuve, et on va avoir trois. La première, c'est résister aux mensonges sur l'origine des tentations. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on dit que le mal vient de Dieu, ou que voilà, c'est la faute de Dieu si je suis dans telle situation, etc. Mais Dieu ne tente personne. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut même pas concevoir le mal. Je me demande pourquoi il est là. Satan, Adam et Ève, merci. Et nous, on continue à le faire. Mais Dieu ne peut pas faire le mal. Ça nous rassure quelque part. Alors on dit, oui, mais quand les gens vont être jetés dans l'enfer, il est juste, tout simplement. Il ne fait pas le mal. Il reste juste. Dieu ne fait pas le mal, il ne tente personne non plus. parce que lui-même ne peut pas tenter les autres ou être tenté lui-même. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, parce qu'il est juste, plein de bonté. Et donc, à cause de sa propre nature, eh ben, il ne peut pas tenter, on ne peut pas dire qu'il me tente, moi. Dieu ne veut que du bien pour moi. Alors, souvent, on accuse Dieu, hein, et on le fait, même en tant que chrétien, on accuse Dieu. Alors, le monde accuse Dieu des guerres, des trucs, etc. Mais Dieu, il n'a jamais voulu ces guerres-là. C'est vous qui les faites, ce n'est pas moi. Enfin, ce n'est pas Dieu. Mais nous, on peut l'accuser aussi des fois quand on est tenté nous-mêmes. Hein. « Ah, tu ne m'as pas donné la force pour résister, etc. etc. » Alors que nous-mêmes, nous nous mettons souvent en danger. Et après, évidemment, on balance tout sur Dieu. Hein. J'aime beaucoup les gâteaux, mais il ne faut pas que j'en mange beaucoup. Je passe tous les jours devant la pâtisserie. À un moment, je craque et après, je dis « C'est ta faute, Seigneur. » On est comme ça. Non ? Pas vous ? Moi, si, en tout cas. Et des fois, on accuse Dieu tout simplement de cela. Ou alors, il y a les tentations que le diable... Ben, fait des fois, hein, et on succombe très facilement à ce genre de tentation. Job, à l'époque, a tenu. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait non plus. Mais ce n'est pas la faute de Dieu si le diable vient nous embêter. Heureusement que Dieu restreint bien souvent l'épreuve aussi, comme dans Job. Et puis là, on peut parler aussi de l'épreuve qui est là dans le contexte de Jacques. Hein, là, on se balance il y a 2000 ans. Persécuté, dans la difficulté, en prison, ben, l'envie de se venger à un moment ou de réagir vis-à-vis de toute cette violence, ben, elle était là chez les chrétiens, il ne faut pas croire. Hein. Ils n'étaient pas plus forts que nous ou moins forts. Et ils avaient certainement ce désir, quelque part, d'agir mal, tout simplement, envers ceux qui les persécutaient. On ne peut pas comprendre parce que nous, on n'est pas persécutés. Enfin, quand quelqu'un vous dit « Ah, toi, t'es chrétien, il se fout de vous », qu'est-ce que vous faites généralement ? Ben, ça nous fait un peu mal, non ? On aimerait bien qu'ils connaissent le Seigneur pour comprendre, mais déjà là, juste dans des petites persécutions, ben notre cœur réagit déjà. Alors j'imagine, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des lions à l'époque, et un tas d'autres choses horribles. La Bible nous dit, enfin Jacques nous dit, ce sont nos convoitises qui créent la tentation. Ce n'est pas Dieu, ça vient de nous. Et cette origine de la tentation, enfin cette tentation vient parce qu'on est attiré. Le mot grec veut dire être tiré, entraîné. Hein, on est entraîné vers la tentation à cause de notre convoitise. Amorcer aussi, c'est-à-dire appâter. Le mot veut dire aussi être séduit. Hein. Il y a quelque chose là en face de moi, ça me plaît, je sais que je n'ai pas le droit, mais c'est bon. Hein. C'est bon le péché des fois. Et puis alors au début, on dit non, on va lutter. Et puis au fur et à mesure, ben, notre convoitise elle grandit, surtout si on ne réagit pas. Et à un moment, ben, on est séduit, on est trompé et c'est trop tard. On est tenté quand on est attiré, séduit, trompé par quelque chose que la chair affecte tout simplement. Et là, il y a une panoplie énorme dans notre cœur. Je ne sais pas si vous avez fini avec la convoitise. Quelqu'un a fini avec la convoitise ? Avec le péché ? Merci, vous me rassurez, parce que si vous auriez levé la main, vous venez de mentir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est dans notre cœur et... La chair, il va falloir lutter jusqu'à la fin de notre vie. Alors, il ne faut pas non plus être défaitiste. Hein. Ce n'est pas parce qu'on doit lutter qu'on ne peut pas avoir des victoires non plus. Justement, il donne là des pistes, quelque part, Jacques. La tentation vient de nos convoitises. Le mot convoitise parle de désir, de passion. Hein. Toutes ces choses que la chair, elle affecte et que le monde déverse à flot devant nous tous les jours, à la télé, dans les journaux, etc. Ben, tout ça, ça, on le convoite. Mais convoiter, ce n'est pas encore péché. Souvent, il y en a qui convoitent et se disent « ça y est, c'est trop tard ». On peut convoiter quelque chose, mais tant que ça reste une convoitise, je ne suis pas encore en train de pécher. Hein, parce que sinon, bah, je serai tout le temps en train de pécher. Ça, ce n'est pas possible. Mais je peux convoiter et dire « stop, stop hein, ». Et arrêter de me mettre en danger. Si j'aime tellement les pâtisseries et que j'ai du cholestérol, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas, du diabète plutôt, c'est peut-être mieux ça, et que je me mets moins en danger tous les jours... Ben forcément, à un moment, je vais craquer. Par contre, je peux dire, je vais prendre une autre rue maintenant. Là, il y a une boucherie. Ah mince, juste, il y a encore une boucherie. Bref, j'ai faim peut-être. Et vous comprenez l'idée. On peut convoiter des choses, on peut dire stop, arrêter ces choses-là et passer outre. Mais si je continue à me mettre en danger, ben à un moment, je vais craquer et forcément, je vais pécher. Jacques nous dit ce que produit la tentation. C'est que cette convoitise qui va commencer à concevoir. Alors le mot est intéressant, hein, le verbe, c'est s'emparer de nous, c'est devenir enceinte. Hein. C'est comme s'il y avait une grossesse qui commençait dans notre cœur, quelque part, hein, c'est métaphorique évidemment, et qui à un moment grandit, et à un moment bah, on accouche, hein, parce qu'on craque, devant la convoitise, si évidemment je me laisse tenter. Et quand elle saisit l'homme, ben, c'est trop tard. Certains disent souvent que la convoitise ou la tentation, c'est comme un oiseau qui vole au-dessus de vous. Hein. Tant qu'il vole, ça va, pas de problème, c'est la convoitise. Mais il faut, hein, pas tant, le petit oiseau là. Mais à un moment, il peut aussi faire son nid. Et s'il a fait son nid, ben là, c'est trop tard, on est dans le péché. Alors la convoitise, nous dit Jacques, produit le péché, encore si c'était que ça, et puis le péché qui est consommé produit la mort. Et c'est cette mort spirituelle dont parle la Bible. Hein, parce que j'ai péché, je suis séparé de Dieu et j'irai en enfer pour l'éternité, sauf si évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Ça, c'est notre expérience quotidienne. Tous les jours, on est tenté, hein, quand le patron s'énerve. Hein, ça vous arrive jamais ? Quand le client est pénible, ou je ne sais pas, hein, ou à l'école, ou ailleurs, on est tous les jours tenté par ce genre d'acte. Mais c'est intéressant parce que là, Jacques parle de l'homme, et puis d'un coup, il fait un contraste. Il dit que Dieu, lui, ne fait que de bonnes choses. Dieu n'offre que des grâces. Il dit, ne nous trompons pas nous-mêmes, hein, en disant que Dieu veut notre mal ou nous fait du mal. Si on se dit ça dans notre tête, oh, encore une épreuve, Dieu ne m'aime pas, pourquoi moi ? Je suis en train de mentir. Je me trompe moi-même, tout simplement, parce que Dieu ne fait que de bonnes choses pour nous, même dans l'épreuve. C'est pour avancer, c'est pour grandir. Et surtout que Dieu ne change pas, donc s'il a été saint autrefois, s'il n'a jamais tenté, ben il ne changera pas et il ne tentera pas plus demain ou après-demain, puisqu'il a toujours la même nature. Jacques nous dit que Dieu nous a donné la vie, il nous a engendrés, c'est-à-dire il a produit quelque chose en nous. Finalement, c'est cette nouvelle naissance quelque part. Je suis né de nouveau. C'est ça, être converti, être né de nouveau. Ça veut dire avoir accepté à un moment que je suis pécheur. Et on a tous péché. On a menti au moins une fois dans notre vie. Et parce que j'ai reconnu mon péché, eh ben, j'ai besoin d'un sauveur, puisque j'ai compris que je suis condamné. Et parce que je suis condamné, eh ben, je peux saisir la grâce, tout simplement, celle que Jésus-Christ m'offre. Et lui me sauve, lui crée en moi une nouvelle naissance, comme dit la Bible, une nouvelle création. Et à partir de ce moment-là, je suis chrétien. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est au travers de la parole, hein, que, évidemment, on a rencontré Christ d'une manière ou d'une autre, et par la conviction du Saint-Esprit aussi, mais il dit par la parole de vérité pour ne plus être tenté. Ah, chouette! Ça veut dire qu'on peut ne plus être tenté. Je ne sais pas si on l'avait compris, ça aussi. Il nous a créé de nouveau, enfin, on a cette nouvelle naissance qui nous permet aujourd'hui, en tant que chrétien, de lutter contre la tentation. Autrefois, quand on n'était pas chrétien, vous posiez la question de la tentation. Il y avait quelque chose, allez, je prends. Tout le monde le fait, de toute façon. Les impôts, je ne paye pas, je triche, je vole, ça ne me gêne pas. Hein. Tout le monde le fait, de toute façon. Et puis, de toute façon, le gouvernement, hein, comme il est. Non, je vais effacer cette enregistrement, parce que sinon, je vais me faire infecter. Mais bref, avant, on vivait comme on voulait. Mais maintenant que je suis chrétien, je peux lutter contre la tentation. Ça ne veut pas dire qu'on est encore des pros ou des cracks dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on peut. Et il dit, c'est pour être les prémices de ces créatures, un peu comme autrefois dans l'Ancien Testament, on apportait les prémices, hein, des moissons, etc. Ces chrétiens, je parle de l'époque, étaient les prémices, la première offrande, on pourrait dire, des chrétiens qui ont souffert, hein, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous réunir. Ça, on ne s'en rend pas souvent compte. On verra l'Église un peu, mais est-ce qu'on se rend compte que, déjà au départ, des milliers et des millions de chrétiens sont morts pour que l'Église perdure, pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, on a parlé de la réforme il y a 2 semaines, hein, grâce à ces chrétiens qui sont allés dans les galères, qui ont souffert un tas de choses, nous pouvons nous réunir aujourd'hui. Alors, grâce à Dieu, évidemment. Mais quelque part, ils ont conservé le témoignage jusqu'à nous. Et maintenant, c'est à nous, évidemment, de conserver ce témoignage. Donc, première chose que Jacques veut nous apprendre, c'est qu'il faut arrêter de se mentir. Tout le mal qu'on peut faire vient de nous. Rien vient de Dieu. Et si j'ai compris ça déjà, eh bien ça veut dire qu'au lieu de me focaliser sur Dieu, au lieu de l'accuser, je vais m'arrêter. Je vais prendre le temps de faire un bilan sur moi-même, regarder mon cœur, mais pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je me laisse aller facilement en convoitise? Pourquoi je me laisse facilement tenter? Ben c'est ma faute, tout simplement. Dieu ne veut pas ça pour moi, mais il me donne aussi les moyens d'en sortir. Ne nous trompons pas sur l'origine du mal. Il ne vient pas de Dieu, il vient de l'homme et de nos propres convoitise. Si un jour quelqu'un vous dit « Ouais, mais pourquoi Dieu permet les guerres et tout ça ?» Eh bien, dites-lui, Dieu ne peut pas faire ça. C'est l'homme qui est en train de le faire. Deuxième chose que Jacques nous apprend, c'est de résister au mensonge de la vengeance. Alors peut-être que nous, on n'a pas forcément envie de se venger tout le temps quand quelqu'un nous fait du tort, encore que on arrive très bien à le dissimuler ou à le rendre un peu abstrait dans d'autres choses, hein, mais là, dans la persécution, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont envie d'agir. Et c'est la réaction naturelle de l'homme dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il existe de nombreuses tentations. Hein. Lorsqu'on nous fait du mal, tout de suite, le cœur, il est énervé, il a un peu de colère. Puis si on laisse la colère aller, on va commencer à avoir de la haine. Et puis une fois qu'on a de la haine, on commence à préparer notre vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc ça se prépare tout doucement jusqu'au moment où... Et ou alors, si l'autre en face, il subit quelque chose, bien fait pour lui. La Bible ne veut pas qu'on agisse comme ça. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier tous les jours pour que Dieu se venge pour moi. Il y en a qui le font. Et on le fait aussi inconsciemment. Qu'est-ce qu'on aimerait bien que Dieu punisse cette personne qui m'a fait du mal, là ? Allez, vas-y, bouge, bouge, bouge ! Non, on n'est pas comme ça ? Je sais, on n'est peut-être pas à ce point-là, mais on est des fois tordu. On agit là par la chair. Et finalement, bien souvent, on m'a fait du mal. Eh bien, moi, je vais rendre le mal pour le mal. Et je me retrouve dans le même état que l'autre, finalement. Je ne peux plus l'accuser parce que moi, je suis en train de faire du mal aussi. Et devant Dieu, tous les deux, on est égaux. Dieu demande aux chrétiens d'être prompt à écouter. Quand on vous persécute, quand quelqu'un est en colère après vous, qu'est-ce que vous faites, généralement ? Restez calme, zen, et vous écoutez. Mais on n'est pas comme ça. Hein ? Le mot veut dire, enfin, l'expression pourrait dire plutôt « calmez-vous ». Être calme face à celui qui est en train de vous hurler dessus, vous crier dessus, ou je ne sais pas à quoi vous faire, restez calme. Il faut écouter l'homme, parce qu'il a peut-être quelque chose à nous dire, mais aussi écouter Dieu lui-même. Dans ces situations-là, c'est l'occasion de se mettre à prier. Seigneur, que je reste calme. J'ai envie de vous taper dessus, mais je vais rester calme. Mais il faut prier dans ce cas-là. Il demande aussi de savoir parler lentement. C'est le proverbe qui dit « Tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de répondre. » 5 fois, 6 fois, là j'ai crampé, 7 fois. C'est long hein, quand même quand on y réfléchit. Mais au moins ça permet que, avant de dire n'importe quoi, d'insulter parfois, j'ai pris le temps de me calmer, de penser à ce que je vais répondre, passer ça au tamis de la Bible et de ce que Dieu et le Saint-Esprit peuvent me dire à ce moment-là, pour pouvoir écouter l'autre, plutôt que d'exploser. C'est facile d'exploser. Tout le monde peut exploser. Mais rester calme, écouter l'autre en face, ça, c'est dur. Mais ça, c'est la preuve aussi de maturité spirituelle. Quand on s'y restait calme. Paul, chaque fois qu'il était accusé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'énervait, il sortait le fouet. Restait calme. Jésus, à la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il restait calme. C'est la maturité spirituelle. Ça s'apprend, hein. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais pour l'apprendre, il va falloir que vous soyez souvent embêtés. Donc je vais venir vous embêter souvent, comme ça je vais vous faire avancer un petit peu, non ? Ça vous dit ? Il me regarde bizarre. Et puis être lent à la colère aussi, nous dit Jacques. Lent à la colère, ce qui n'est pas tout à fait le propre de l'homme, parce que cette colère vient très vite, et puis souvent elle mène à la vengeance. Et comme le dit le texte, ça ne fait pas la justice de Dieu. On a envie d'être... Des fois, quand on se met en colère, quand on se venge ou quand on agit, c'est parce qu'on veut appliquer notre justice à nous. Mais qui a une justice parfaite ici ? Parce que si on essaie de débattre d'un sujet éthique ou je ne sais pas quoi, personne ne serait d'accord ici. Parce qu'on a des origines différentes, parce qu'on a été éduqué différemment, parce que ci et ça. Mais quand je me venge, quand je crie sur l'autre, quand je me mets en colère, je ne pratique pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est parfaite, elle est prompte à écouter, elle prend du temps avant de répondre, elle est calme. Et ensuite, il va répondre tout doucement. Résister à la chair en vivant dans la vérité, nous dit Jacques. Le chrétien doit rejeter le mal, il doit rejeter toute souillure. Alors, le mot souillure en grec, c'est la crasse, toute crasse qu'il peut avoir dans le cœur, tout ce qui est immonde en fait, c'est vraiment le plus noir qu'on pourrait dire. Et cette crasse, bien souvent, elle est dans notre cœur. Cette crasse, elle est dans notre chair. Cette crasse, elle se traduit par la colère, par la vengeance et par un tas de choses. Rejeter la souillure, rejeter la malice. La malice, c'est la méchanceté. Hein, et être méchant, c'est tellement facile aussi, même pour le chrétien, hélas. C'est tout ce que produit tout simplement le péché. Rejeter ce que produit le péché. La vengeance, la colère, la vulgarité, parce que des fois on dit des gros mots et des choses vraiment pas belles. Tout ça, c'est pas la sainteté. Et Dieu, s'il nous dit qu'on peut ne plus faire ça, c'est que on peut. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on veut ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on a été suffisamment travaillé pour enfin apprendre à rester calme dans l'épreuve et dans la difficulté ? C'est un travail, mais ce n'est pas impossible. Mais si vous mettez tout le temps en colère, il y a un problème, quelque part. Il faut laisser faire Dieu dans votre vie. Le chrétien doit vivre dans la vérité. C'est parce qu'il vit dans la vérité qu'il va pouvoir réagir aussi comme cela. Il doit écouter avec douceur et humilité la parole, nous dit Jacques. Ça veut dire qu'il faut déjà la lire, parce que si je ne la connais pas, je ne vais pas pouvoir avoir les versets clés ou toutes ces choses qui vont m'aider dans les circonstances difficiles. Hein. Connaître la vérité, connaître les conseils aussi que nous donne la Bible. Justement, elle dit là, soyez prompt hein, à vous calmer. Et si je ne le sais pas, bah, j'explose forcément. Parce qu'elle peut sauver l'âme. Alors, il ne s'agit pas du salut, puisque là, Jacques s'adresse à des chrétiens qui sont déjà sauvés, mais elle peut sauver l'âme dans le sens où elle va éviter la tentation, elle va nous éviter de nous mettre en colère, parce qu'après la colère, il faut demander pardon, souvent. Et on n'est pas toujours fier, on n'a pas envie. Elle peut nous sauver du péché, tout simplement. Le fait de connaître la vérité et de la mettre en pratique me permet de me sauver de bien d'humiliation, quelque part. Parce que si je me lâche, surtout si je me venge et que je fais du mal à l'autre, Dieu va me rattraper. Il faut que tu demandes pardon. Et si, j'imagine à l'époque, on avait presque envie de tuer des fois les gens parce que c'était terrible, hein, ben là, ça va peser toute votre vie sur le cœur. Elle peut sauver l'âme, mais pour cela, il faut évidemment connaître la parole, la méditer, la manger, j'ai envie de dire, et vraiment l'imprégner dans notre cœur. Et puis surtout, la laisser travailler au travers du Saint-Esprit qui va agir dans notre vie et va nous aider à grandir. Résister aux tentations en pratiquant la vérité ou en pratiquant ce que dit la parole, nous dit Jacques. Ce n'est pas seulement écouter ou connaître. Beaucoup de gens connaissent la Bible, sont capables de réciter un tas de versets, c'est très bien. Mais si on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. À rien. C'est juste de l'intellect. Cette écoute, on peut la faire de la parole. Hein. Cette écoute peut se faire au culte, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, pendant les études bibliques, pendant une lecture personnelle, pendant un partage avec les uns et les autres. En tout cas, il y a suffisamment d'occasions. Et les vacances sont une belle occasion pour prendre le temps de lire la Bible. Non ? La plage, la Bible. La plage, la Bible. La Bible et la plage. Tiens, c'est marrant, ça. On peut faire les deux. Une occasion d'écouter la parole de Dieu. La parole, nous dit Jacques, c'est comme un miroir. Vous êtes déjà, ce matin, vous étiez devant votre miroir, j'imagine. Qu'est-ce que je suis beau, hein. Mais ça reflète quelque chose. Ça reflète moi, tout simplement. Mais là, on ne parle pas de notre beauté. Ce miroir qui est la parole révèle mes défauts. Quand je lis la Bible, ah ouais, tiens, ça, je ne le fais pas. Et Dieu me demande de le faire. C'est un défaut qu'il faut que je change. Et au fur et à mesure que je lis la Bible, je me rends compte de plus en plus de ma nature, de qui je suis réellement et surtout de mes péchés. Alors c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas envie de lire la Bible des fois, parce qu'on sait que ça va me travailler, ça m'embête un peu, donc pas de miroir, tant pis si je suis beau ou je suis pas beau, hein, comme ça au moins j'évite ces choses-là, cette remise en question. C'est, comme dit Jacques, regarder son visage naturel. Le mot visage naturel, ou le mot là veut dire, signifie généalogie naturelle. Un auteur dit c'est la représentation du visage que Dieu a créé. Quand je me regarde dans la parole de Dieu, je me vois comme Dieu m'a créé, moi. Un autre dit, c'est le contraste entre le visage réel et le visage parfait selon Dieu. En lisant la Bible, je vois mon visage, pas souvent très beau, et je vois le visage que Dieu voudrait former en moi, tout simplement. Et les deux sont bien souvent différents. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole, parce que de temps en temps, ça fait du bien de se souvenir qui on est réellement. Et pour faire le travail dans notre vie. C'est faire une comparaison entre ce que Dieu veut de moi et ce que je suis, tout simplement. Alors souvent, on se dit, bah, je suis un bon chrétien, je ne suis pas pire que les autres, on va dire, et puis je me contente d'être dans cet état-là, 20 ans, 30 ans après. Mais c'est pas ce que Dieu veut. le visage, il ne sera jamais comme Dieu veut quand on se regarde dans le miroir. Il aura toujours à grandir, à changer, à être amélioré, parce qu'on est loin d'être parfait, ce qu'on appelle la sanctification. On a besoin d'être transformé jusqu'à la fin de notre vie. Et non, hein. Mais quand on se laisse transformer, et c'est un peu la conclusion de Jacques, on est heureux, tout simplement, parce qu'on se débarrasse de tout ce qui nous fait du mal. Quand le jour où vous serez, comment dire, capable de vous maîtriser face à des situations, vous verrez la différence. Ça fait du bien de ne pas se mettre en colère, de ne pas dire des âneries, de devoir demander pardon ensuite, d'être absolument parfait dans ces situations, vous êtes bien. C'est pas simple, hein, on va se comprendre un peu quand même. Mais vous verrez quand même la différence par rapport à la colère, la vengeance, etc. Et c'est ce que Dieu veut tout simplement produire en nous. Il veut qu'on soit bien. Et nous, on aime bien être mal. On est maso quand même. Hein. Pourquoi on se met en colère? Pourquoi on dit des choses bêtes des fois, hein, alors que Dieu veut le contraire? Cette parole nous pousse donc à nous connaître. Mais une fois que je me connais, je ne vais pas me dire, ouais, bon, ben voilà, ben, Dieu me voit comme ça. De toute façon, hein, t'as vu, l'autre chrétien, il est pareil que moi, donc moi, je ne vais pas changer. Hein. Mais si on fait ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Une fois que je vois comment je suis, et ben maintenant, je dois me mettre à agir. J'ai remarqué tel défaut, telle chose a changé dans ma vie, et ben maintenant, je dois agir selon les principes de Dieu. Sans pratique, à quoi bon écouter? C'est vrai. Si vous voulez écouter la parole ou si vous lisez la parole et que finalement vous ne mettez pas ça en pratique, mais arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein, soyons honnêtes. Ça ne sert à rien d'écouter la Bible si je n'ai pas envie de mettre les choses en pratique dans ma vie. C'est perdre son temps, tout simplement. Si je connais mes péchés, mes défauts et que je ne veux pas changer, il n'y a aucun intérêt à lire la Bible, à venir à l'église, etc. Ça ne sert à rien. Ce sont nos raisonnements, comme dit Jacques, qui nous trompent. Hein, parce que je lis la Bible, je vois mon visage naturel, et puis je me dis, on verra demain. Hein, parce que ça, on aime bien le lendemain. On remet au lendemain ou à l'année prochaine, parce que c'est là où on prend les bonnes résolutions. Hein. Comme ça, on a vraiment le temps. Mais là, je me trompe. Je me trompe moi-même. Et le cœur est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Même nous-mêmes, des fois, on n'arrive pas à voir combien on se trompe nous-mêmes. On est vicieux, hein, quand même. Hein. Si un jour Dieu nous montrait les mécanismes de tromperie que nous avons dans notre cœur, on est des pros, hein. Non, là, franchement, on est des professionnels dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on remette à demain. Si j'ai remarqué que j'ai un problème dans une situation, alors des fois, les problèmes peuvent prendre du temps, on est bien d'accord. On ne sépare pas du péché comme ça non plus. Mais si je le sais, alors je veux me mettre à pratiquer la parole, c'est-à-dire à changer et à me laisser faire par le Seigneur. Et ainsi, nous avons entendu, puis souvent, bah, on a oublié ce que Dieu veut. Hein. La Bible nous dit de mettre en pratique. Le mot grec veut dire se mettre à l'œuvre, un peu plus précis, être observateur. Alors, à l'époque, c'était de la loi, là, c'est être observateur de la parole de Dieu. Je lis, je vois mon visage, j'ai compris mon problème, maintenant, je vais changer, tout simplement. Il n'y a pas que les défauts, hein, on peut s'améliorer dans d'autres choses, comme l'amour, etc. Mais il faut que je me mette à pratiquer ces choses-là. Et si je retombe dans la colère, si je retombe dans la vengeance, ben vous étonnez pas. C'est que vous vous regardez dans la parole, je me regarde dans la parole, et je ne change pas. Je sais qui je suis, mais je ne veux pas changer. Et là, on va accuser Dieu en disant, tu ne m'aides pas. Et on tourne en rond. Celui qui écoute vraiment, nous dit Jacques, il plonge, et j'aime bien le mot grec, parce que ça veut dire, il se penche sur la parole, dans le but de regarder. Hein, je sais pas, il est là en train de scruter un peu quelque part, il médite courbé. Alors, pour ceux qui ont mal au dos, ça va être un peu embêtant, mais quelque part, il a compris qu'il y a quelque chose pour lui là-dedans. Souvent, on lit la Bible, nanana, prof, allez, la télé, il y a du foot. Mais on ne prend pas le temps de la méditer. On ne prend pas le temps de peut-être relire ce qu'on n'a pas compris, ou d'essayer de chercher à comprendre, tout simplement. Ou dans la journée, peut-être se souvenir de quelques versets, de se dire, hein, méditer, c'est manger, c'est comme les vaches. Hein. Prends l'herbe et on la mâche jusqu'à ce qu'il y ait les nutriments, la vitamine qui sort. Et celui qui écoute vraiment la parole de Dieu, c'est celui-là qui plonge justement ses regards dans cette parole. Il plonge ses regards, il prend du temps pour la méditer parce qu'il sait que la parole est bonne. Et comme dit Jacques, elle est parfaite pour nous rendre libres. Libre de me mettre en colère, libre de vouloir me venger, libre du péché. Quand je prends le temps de l'écouter, de la méditer et de la mettre en pratique, je suis bien heureux. Vous aimez être heureux ? Alors pourquoi on se met en colère? On est tordu. Hein. Mais on est heureux. Alors, je ne dis pas que ça vient comme ça du jour au lendemain et que je me mets encore en colère, croyez pas. On apprend, évidemment. Mais chaque fois que ça m'arrive, je me dis, quel imbécile. Je suis privé de ma joie. Je suis privé de mon bonheur. Celui qui écoute regarde dans la parole et il sait qu'il doit persévérer. Et parce que Jacques dit, il ne doit pas être un auditeur oublieux. Je vais vous appeler ce soir en plein match à 17h30 pendant la finale et vous demander qu'est-ce que vous avez entendu ce matin à l'église. Pas de moi, de Rémi. Ouais, c'est pas le moment, hein. Non, je ne vous appellerai pas, je vais aussi regarder le match. Mais on est bien souvent un auditeur oublieux. Hein. Quand on fait des petites synthèses, on sait qu'on garde que 20% de ce qu'on a entendu le dimanche matin. Et encore, 20%. C'est pas grand-chose. Donc on est capable de retenir beaucoup de choses, souvent des choses vaines, mais la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qui s'accroche à notre cœur, bien souvent. C'est quelque chose qui s'envole. Jacques nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux, parce que si je n'oublie pas, ça va me rendre heureux, parce que je vais me mettre à obéir, parce que je vais être en harmonie avec la parole et avec Dieu. Le psaume 19, 8 à 12 dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Vous avez besoin d'être restauré ? Vous avez besoin de coups de pouce ? Parole de Dieu. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Vous ne savez pas tout ? On ne saura jamais tout non plus, mais si vous avez besoin de sagesse, comme disait Jacques dans le début du chapitre, eh bien lisez la parole de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Quand on lit la Bible, quand on sait qu'il ne faut pas faire ça et ça, ça me réjouit. Et en plus, si je le fais, alors là. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. C'est là où, justement, il faut s'arrêter de temps en temps en voulant pratiquer ma propre justice. T'es sûr que t'es vraiment juste à ce point-là? En te mettant en colère ou en entendant certaines choses des fois de l'autre, t'es sûr que c'est comme ça que Dieu ferait? Pas forcément. Hein. Alors prenons le temps de lire la Bible. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. On veut souvent être heureux, on veut être un super chrétien épanoui, etc. Mais on oublie que ça passe par la parole et par sa pratique, tout simplement. Autrement, on ne pourra jamais s'épanouir dans notre vie chrétienne. Il faut obéir à cette parole, mais pour obéir, il faut évidemment la connaître. Dans l'épreuve, pour résister à la vengeance, à la colère, à tout ce que le cœur peut produire, ben, la parole de Dieu est la superbe arme, la superbe aide pour nous aider à résister face à la tentation. Vous vous souvenez, hein, Jésus, quand il était dans le désert, quand Satan le tentait, comment il a répondu? Par la parole, par la parole, par la parole. Il n'a pas pris un marteau pour lui taper dessus, la parole, bien que la Bible peut être un marteau, hein, des fois aussi. Troisième chose qu'on peut voir, c'est résister au mensonge de la religiosité. Il définit un peu là, le faux religieux. Hein, j'aime pas trop le mot religion parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais il en parle là. Le faux religieux, en général, c'est ce qui désigne la forme extérieure que doit revêtir ce religieux. Je suis religieux parce que j'ai des rites, parce que j'ai une certaine piété. Regardez comme je suis saint. Hein. Regardez mes œuvres. Ça démontre toute ma religiosité. Et le monde entier, toutes les religions, justement, passent par ce genre de choses et se trompent complètement. La question de savoir si nous-mêmes, puisque là, il s'adresse à des chrétiens, si nous-mêmes, nous sommes religieux ou consacrés. Quelqu'un écrivait en parlant du faux religieux, il disait, merci pour le smiley, « Hélas, mes frères, il est fort à craindre qu'une grande multitude de chrétiens professants, des personnes qui viennent régulièrement au culte, qui écoutent avec une certaine assiduité la proclamation de la vérité et aiment assez discuter des sermons, des pasteurs et de ce qui est orthodoxe, s'arrêtent à ce point. » Ils sont néanmoins persuadés d'être chrétiens et oublient que toute forme de religion où l'amour de Dieu est absent du cœur et où la vie n'est pas consacrée à son service n'est à ses yeux que tromperie. Il y aura hélas beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas sauvés. Désolé de le dire, c'est ce que dit Jacques aussi quelque part. Parce qu'on vient à l'église sous forme de religieux, parce qu'on veut se calmer un peu notre culpabilité, un tas de choses. Mais ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que... on est sauvé. C'est parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est ça qui donne envie ensuite d'aller vraiment à l'Église. Mais la Bible nous demande aussi d'être consacré et pas être religieux. Calvin disait, Jacques ne définit pas la religion ici, mais il nous rappelle que la religion, sans les choses dont il nous parle, n'est rien. Si je me dis religieux ou chrétien, entre guillemets, et que je n'agis pas comme la Bible nous le demande, je suis qu'un religieux comme ceux qu'on accuse généralement. Le vrai religieux, on pourrait dire que c'est celui qui craint Dieu ou qui l'adore. Adorer, c'est pas danser, chanter le dimanche matin. Adorer, c'est toute une vie. C'est une façon d'agir, de vivre au quotidien. C'est ça, vraiment, adorer Dieu. Lui plaire, tout simplement. Ça, c'est le vrai religieux. Il craint Dieu, donc forcément, il va agir selon cette crainte. Il adore Dieu, donc il va forcément appliquer la parole de Dieu. C'est autre chose que faire des œuvres, des œuvres, des œuvres. Comment réagit le faux religieux, justement? Et c'est là où on voit la distinction. Si l'on dit qu'on craint Dieu, mais comme il dit qu'il faut tenir sa langue, si je dis que je suis chrétien et que ma langue, elle déverse des flots de vengeance, de haine, ou, vous savez, tout ce qu'on peut faire, on en verra un peu plus tard avec la langue, on en fait des choses. Alors là, quelque part, je suis un simple religieux, je ne suis pas un chrétien. Un chrétien ne fait rien avec sa langue de mal, normalement. S'il le fait, il demande pardon, tout simplement. Ça nous arrive, les gros mots qui échappent comme ça. Quand on se tape avec un marteau sur le doigt, on ne dit pas « Merci Seigneur ». Il y a d'autres mots qui sortent généralement. Mais on peut demander pardon à Dieu. Ça me rappelle que quand on était dans le Sud, moi à l'époque je travaillais avec des bouchers, et dans le Sud, la virgule c'est un gros mot. Tout le temps comme ça. Et pendant 10 ans, quand vous êtes avec ces gens-là, à un moment vous-même vous mettez à parler de la même manière. Et je luttais à un moment avec ces choses-là. Chaque fois que ça m'arrivait, « Seigneur, pardon. » On peut demander pardon. Ça, c'est formidable. Et même si on dit des choses pas bien, on peut demander pardon à la personne à qui on l'a dit, mais souvent, on oublie de demander pardon aussi à Dieu. Les deux ont été offensés. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si je suis un vrai religieux, un vrai chrétien, je tiens ma langue, je n'ai pas envie de dire ces choses méchantes, je n'ai pas envie de me venger, ou je ne trompe pas mon cœur, comme dit Jacques encore une fois, hein. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je dois faire. Parce que la parole me le dit, et je dois agir en conséquence. Alors, quand j'agis de cette manière-là, je deviens un religieux, ou plutôt celui qui craint Dieu, hein, et qui ne se trompe pas à lui-même, et qui fait tout simplement ce que Dieu veut. Ça, c'est la vraie religion. Religieux, oui, la vraie religion. Et il dit, Jacques, qu'elle est pure et sans tache. C'est-à-dire qu'elle ressemble tout simplement à Dieu, hein, ou plutôt, le chrétien fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Elle est pure, elle est propre, elle est sainte, tout simplement comme Dieu. Et si je crains vraiment Dieu, j'ai envie d'écouter sa parole, et surtout, j'ai envie de la mettre en pratique. Mais le religieux, lui, ouais, c'est à peu près ce que Dieu veut, ou des fois, il s'invente ce que Dieu veut. Et ça lui permet, justement, de créer des religions, et c'est ce que nous avons dans ce monde aujourd'hui. Le vrai religieux, c'est celui qui connaît la parole et la met vraiment en pratique dans sa vie. Et Jacques nous dit aussi que la vraie religion, elle est active. Je ne suis pas un chrétien passif, je suis actif. Alors il donne des exemples, hein, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il dit visiter. Visiter, le mot, c'est jeter le regard sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. C'est prendre le temps de voir que peut-être il y a des gens qui sont dans la peine, dans la misère. Ce n'est pas forcément financier, il y a d'autres formes de peine. Hein. Les défavorisés, c'est se dire je vais essayer de prendre soin de ces gens-là. Si vous voyez quelqu'un dans la peine, vous ne lui dites pas « Va prier et débrouille-toi. » Ça serait cruel. Bien qu'on le fasse point comme ça. « Je vais prier pour toi. » Mais on ne va pas l'aider, là, comme ça. C'est visiter les orphelins et les veuves, c'est-à-dire ceux qui sont dans la fiction, et j'imagine qu'à l'époque, il y en avait énormément. D'ailleurs, la loi mosaïque, à l'époque, protégeait aussi ces orphelins et ces veuves. Le psaume 68:6 dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dieu voit ceux qui sont dans l'affliction, dans la difficulté. Et comme on a dit, on veut lui ressembler. Et si nous voyons l'affliction, la vraie religion, justement, c'est prendre le temps pour aider ces gens-là. On me dit aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes en France, par exemple, systèmes sociaux, etc. C'est formidable. Parce que tout ça, c'est né de chrétiens. Ça, on l'oublie souvent. Que tout le régime social ou toutes ces aides que nous avons, à la base, c'était les chrétiens qui ont mis ces choses en place. Mais au fur et à mesure, bon, les choses ont évolué. Mais nous-mêmes, on peut des fois aider les gens dans leurs afflictions. La vraie religion, en fait, a compassion de l'autre. Il s'intéresse à l'autre, il aime l'autre, même des ennemis. Même des ennemis, puisque c'est ce qu'il est en train de dire à des chrétiens qui sont persécutés à ce moment-là. Il faut apprendre à aimer ses ennemis, c'est pas facile. Au moins dans le sens de ne pas vouloir se venger, de prier pour eux, pour que Dieu les change. Et vous vous souvenez de Saul, Saul de Tars, qui partait à Damas, sur le chemin de Damas, prêt à tuer des chrétiens, et il va être transformé. Et Dieu peut aussi transformer des gens. Il y a des gens de Daesh qui se sont convertis. Dieu peut faire des choses. Peut-être que nous ne prions pas pour ces gens-là. Peut-être qu'on préfère se laisser aller à notre sentiment et à nos vengeances et colères, etc. La vraie religion a compassion d'autrui. La vraie religion consiste à bien agir, nous dit Jacques. Ce n'est pas que des actes sociaux, hein, c'est-à-dire on peut être religieux, on fait des choses devant les autres, et genre, oh, c'est bien, qu'est-ce qu'il est religieux cet homme-là. C'est bien de faire du bien, on va du retour, mais souvent c'est plutôt pour notre orgueil. Il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment pour Dieu et qui le font dans la discrétion. Et ça, c'est bien. Mais Jacques nous dit, c'est pas seulement faire des choses, mais c'est aussi se préserver des souillures du monde. Ça, ça fait partie aussi de la religion. Et là, peut-être dans le contexte, ces souillures, c'est la colère, la vengeance, préserver de tout péché qui peuvent nuire tout simplement au prochain. Finalement, c'est être un chrétien qui est consacré à Dieu. Mais pas consacré le dimanche matin de 10h à 11h30. Ça, c'est facile d'être consacré. Personne ne va vous faire du mal. Enfin, j'espère. Mais consacré, quelles que soient les difficultés, et là, Jacques le dit à des gens qui sont dans la persécution, dans l'épreuve, dans la difficulté. C'est là où on va voir si on est vraiment consacré. On ne va peut-être pas être à ce point-là, mais des épreuves dans notre vie, nous en avons aussi. Et c'est là où on va voir si on est réellement consacré, si on est réellement religieux, selon la définition de la Bible. Devenons des religieux, c'est-à-dire des adorateurs qui agissent comme Dieu le veut et comme Dieu lui-même agirait. Pour terminer, dans la vie, je suis désolé, mais vous aurez des épreuves, et elles seront certainement nombreuses, alors c'est pas pareil pour tout le monde. Il y aura des moments de tentation et il y aura des moments où on a envie de taper sur l'autre. Ça, ça fait partie de la vie de tout le monde, même du chrétien, je suis désolé de le dire. Si vous ne l'avez pas vécu encore, je suis content pour vous, mais ça peut vous arriver en tout cas. Alors la première réflexe que nous avons, on l'a dit, c'est d'accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu, on va gagner du temps déjà, parce que déjà on se ment. Arrêtons d'accuser Dieu de nos propres tentations, parce que souvent c'est nous qui nous mettons dans le piège. Arrêtons de perdre du temps en élaborant une vengeance, une colère ou je ne sais pas quoi vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est perdre du temps, tout simplement. Il faut gagner du temps, racheter le temps, nous dit la Bible. Dieu veut que l'on plonge dans sa parole, pas simplement pour la connaître, on l'a dit, mais pour dénicher les vérités, les vitamines, et ensuite de mettre tout cela en pratique. La Bible nous donne des outils pour résister. Elle nous les donne, à nous de les trouver, à nous de les mettre en pratique. S'emporter dans l'épreuve, ou peut-être pour les petites épreuves, ça prouve que peut-être la parole de Dieu n'est pas assez encore enracinée en nous, parce que ça ne porte pas encore de fruits. Quelqu'un qui est dans l'épreuve devrait normalement un peu agir comme Job. Peut-être pas à ce point-là, parce qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Mais quelque part, à un moment, on devrait être aussi calme. Ça ne veut pas dire qu'on a pas mal, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, parce que Job, vous croyez qu'il ne souffrait pas ? Il était malade. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a péché, qu'il s'est mis en colère après Dieu. Apprendre tout simplement à me plonger dans la parole pour ensuite produire du fruit. Le diable va nous pousser à la vengeance et à la haine, et peut-être même les hommes des fois. Mais Dieu, lui, nous pousse à l'amour et à la compassion. Prochaine fois que vous voulez vous mettre en colère contre quelqu'un, allez courir 2-3 minutes, hein, faites un jogging là qui vous fatigue bien, et vous revenez avec amour et compassion. Vous verrez la différence. Si l'autre se met en colère, c'est son problème. Et moi, je vais bien. Vas-y, tu peux crier. On fout. Moi, je vais bien, tout simplement. Faites un peu égoïste aussi. Hein. On l'est dans des domaines mauvais, mais là, il faut se faire du bien comme cela aussi. Donc Jacques nous dit tout simplement qu'il est temps de grandir. Vous aimez grandir ? Vous voyez les bébés ? Hein ? Ça pleure, ça pleure, ça pleure. Puis il y a les dents qui poussent et ça fait mal. Et ça pleure, ça pleure, ça pleure. Puis il y a l'adolescence qui arrive. Ça pleure et puis ça crie. Et puis ça fait... Ça, c'est notre croissance, tout simplement. C'est pareil, quelque part. Mais le Seigneur veut qu'on grandisse. Et là où on pleurnichait, où on râlait, hein, et ben il faut apprendre à tempérer ces choses-là, à les accepter, les épreuves, les difficultés de la vie, et à devenir plus mature. À devenir des auditeurs qui ne soient pas oublieux, mais tout simplement des auditeurs qui ont envie de pratiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine, et il y a du travail, je crois, chez chacun d'entre nous, mais ce n'est pas impossible. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, et tout particulièrement cette épître de Jacques qui, qui montre ce contexte de chrétiens persécutés et toi qui leur dis de se calmer, de ne pas mal agir, alors que le cœur de l'homme est enclin à le faire. On pourrait le dire aujourd'hui et ça serait plus facile pour nous, mais tu le dis dans des situations vraiment terribles. Seigneur, apprends-nous à comprendre cela d'abord. Apprends-nous aussi à mieux connaître ta parole, à nous laisser transformer par ton Saint-Esprit pour que nous puissions apprendre à nous tempérer, à nous calmer dans la colère, à te ressembler tout simplement, Seigneur, dans les situations extrêmes. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain et tu sais où en est chacun d'entre nous ce matin. Apprends-nous tout simplement à accepter les épreuves, la transformation aussi que tu vas faire en nous. Apprends-nous à mûrir et à te plaire, à devenir ce religieux, entre guillemets, qui te fait plaisir, adorateur, obéissant tout simplement à ta parole. Apprends-nous à nous maîtriser, à mettre ce fruit de l'esprit en place dans notre vie pour que nous puissions te ressembler et avoir un bon témoignage aussi vis-à-vis de ceux qui nous aiment, mais aussi vis-à-vis de nos ennemis. Que ton nom soit glorifié ce matin en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.